100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Comment enlever les signes du passé communiste et de la soumission à l'ex-URSS alors que les relations avec le voisin russe n'ont jamais été aussi distantes? C'est à ce dilemme qu'est confrontée l'Ukraine. Au cœur de ce débat, une statue haute d'une centaine de mètres, la mère patrie, qui trône au cœur de la capitale, Kiev. Difficile à déboulonner, quasi impossible à décommuniser aussi, selon la terminologie employée sur place. C'est le reportage à Kiev de Sébastien Gobert.
On ne peut pas la manquer. Sur une colline dominant le fleuve Dnipro, la mère patrie veille sur la capitale ukrainienne du haut de ses 62 mètres de métal argenté qui reluisent au soleil. Elle est montée sur un énorme piédestal et l'ensemble du complexe fait 102 mètres de haut. La mère patrie, c'est une figure féminine, aux traits très masculins, un emblème du monumentalisme soviétique. Les bras levés au ciel, elle porte un glaive dans une main et dans l'autre un bouclier. Et sur celui-ci, le blason de l'Union soviétique avec marteau et faucille. La décommunisation bat son plein en Ukraine depuis 2014, mais ses symboles restent, c'est plutôt gênant. De nombreuses voix se sont donc élevées pour que les symboles soviétiques ne dominent plus la capitale. Volodymyr Viatrovitch est le directeur de l'Institut National de la Mémoire, le principal instigateur de la décommunisation.
Le monument est un exemple de l'architecture soviétique. Il doit rester en place, on ne parle plus de le démonter. Mais selon la loi sur la décommunisation, les emblèmes soviétiques, le marteau et la faucille qui se trouvent sur le bouclier doivent être démontés.
C'est plus facile à dire qu'à faire. Le glaive pèse 9 tonnes et le bouclier 13 tonnes. Volodymyr Simperovitch est l'un des historiens du musée de la Seconde Guerre mondiale qui se trouve sous le monument.
Certains voulaient démonter le bouclier, mais ça déséquilibrerait tout l'ensemble, donc c'est pas possible. Le recouvrir par autre chose, comme un texte ou un écran d'image, ce serait une autre option. Décommuniser la mère patrie, ce sera fait, mais ce n'est pas facile.
Mais au-delà de l'aspect technique, se pose la question de la pertinence d'une décommunisation d'un tel monument.
C'est l'une des statues les plus hautes du monde. Son monumentalisme est pensé pour honorer la victoire soviétique durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pour renforcer la place de Kiev comme ville soviétique.
Miroslava Hartmond est une chercheuse et critique d'art à Kiev. Pour elle, il est impossible d'effacer l'héritage soviétique de cette statue.
Décommuniser la statue, cela relève presque de l'absurde. La ville y perdrait un élément de son esthétique et de son héritage culturel. Je pense qu'il faut protéger le monument d'initiatives aventureuses.
Il faut dire que malgré sa physionomie toute soviétique, la statue fait le ravissement des touristes depuis des années et elle ne dérange guère les Kieviens. Pour une raison inconnue, elle regarde vers l'est. Elle n'observe donc pas l'horizon d'où les nazis étaient venus en 1941. Mais c'est le front de l'Est qu'elle scrute vers la Russie, aujourd'hui considérée comme un état agresseur. Un nouveau symbole qui parle aux Ukrainiens. En fait, ce qui semble le plus pressant, c'est de décommuniser et moderniser le musée de la Seconde Guerre mondiale en dessous du monument. Dans une atmosphère assez datée, le cheminement à travers les galeries est toujours calqué sur le narratif soviétique, de l'oppression nazie à la résistance du peuple, des souffrances imposées aux soviétiques à la victorieuse prise du Reichstag à Berlin. Volodymyr Viatrovitch, directeur de l'Institut de la Mémoire.
Ce musée s'appelait auparavant le musée de la Grande Guerre Patriotique, selon l'appellation soviétique. Il y avait des musées similaires dans beaucoup de villes, car les mythes de la Grande Guerre Patriotique constituaient l'un des principaux instruments de pouvoir des autorités soviétiques. La mission de ces musées, c'était d'affirmer que le bien, c'était l'URSS, et le mal, c'était les nazis, sans faire de nuance. Et ce sont des fabulations qui ont survécu à la chute de l'URSS, en particulier en Russie aujourd'hui. L'Ukraine commence à se différencier de ce narratif.
Le changement de narratif, c'est le principal enjeu de la décommunisation en Ukraine. Il s'agit d'adhérer, comme le souhaite le président Petro Poroshenko, à un discours historique commun aux Européens. L'objectif semble ambitieux, mais en même temps, il est aussi plus simple que décommuniser une ville qui, de la statue de la mère patrie au réseau de métro, des façades de bâtiments au couloir des administrations, aura bien du mal à cacher son héritage soviétique.
L'Albanie ne veut pas être la poubelle de l'Europe depuis que le gouvernement socialiste a décidé d'ouvrir les portes du pays aux déchets étrangers. La nouvelle loi suscite une vague de protestations, surtout que le pays a déjà beaucoup de mal à recycler ses propres détritus. Les explications de Simon Rico.
Assez avec nos ordures. Voilà la banderole brandie en tête de cortège par les milliers de manifestants qui ont battu le pavé le 1er octobre à Tirana. Depuis la mi-septembre, l'Albanie vit au rythme de la polémique qui entoure la nouvelle législation favorisant l'importation de déchets étrangers. Devant les députés, le ministre de l'Environnement, Lefter Koka, a expliqué que l'objectif était de soutenir l'industrie du recyclage, un secteur d'avenir selon lui, alors que le pays reste l'un des plus pauvres d'Europe. Pourtant, selon les chiffres officiels, l'Albanie peine déjà à retraiter ses propres ordures. Moins de 20% sont aujourd'hui recyclées. Les nombreuses décharges sauvages qui parsèment les routes du pays en constituent l'une des images les plus visibles. Ce n'est pas la première fois que les autorités albanaises ouvrent leurs frontières aux poubelles étrangères, même si celles-ci sont régulièrement accusées de contenir de nombreux produits toxiques, médicaments usagés, piles ou résidus huileux. Fil rouge de la question environnementale depuis le début des années 2000, ce problème de l'importation des déchets revient donc sur le devant de la scène avec un drôle d'air de déjà-vu. En toile de fond plane toujours l'ombre des groupes mafieux, principalement italiens, qui s'occupent de l'acheminement de ces déchets pour ensuite les abandonner dans la nature, profitant de la corruption et de la faiblesse de l'État. Aujourd'hui, les militants écologistes n'entendent pas baisser la garde contre la trahison d'Edi Rama. En effet, lors de son arrivée au pouvoir en 2013, l'une des premières mesures du Premier ministre albanais avait été d'abroger la précédente loi sur les ordures. Si la pétition qu'ils ont lancée recueille plus de 50 000 signatures, le gouvernement devra organiser un référendum sur la question. En attendant, la coalition au pouvoir tangue dangereusement.
Et pour notre chronique livre, nous retrouvons François Hesbourg qui signe aux éditions Stock « Comment perdre la guerre contre le terrorisme ». Pour le conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, le gouvernement aurait dû tirer les leçons des attentats commis en France au sein d'une commission d'enquête nationale. La commission parlementaire n'a fait qu'un premier travail dont on n'a pas tiré les conclusions qui s'imposent. C'est donc un homme en colère qui a répondu à nos questions.
Un homme en colère et dans la foulée des attentats du 13 novembre.
De manière urgente, qu'est-ce que le gouvernement devra faire aujourd'hui et qu'il ne fait pas ?
Le gouvernement devrait d'abord lancer, pendant qu'il en est encore temps, une commission d'enquête nationale. C'est encore possible. Deuxième chose, il faut vraiment doper financièrement, humainement, le dispositif de renseignement, d'abord au niveau du terrain, c'est ce qu'on appelle le renseignement de proximité. Celui-ci avait été ravagé du temps du président Sarkozy lorsqu'il avait supprimé les renseignements généraux. Donc, travail au niveau du terrain et travail au sommet, puisque la France est un des rares pays à ne pas avoir un centre, une agence chargée de la lutte contre le terrorisme. Et les parlementaires, lorsqu'ils ont fait leur commission d'enquête, ils se sont promenés dans différents pays du monde et à chaque fois ils recevaient la question « Mais qui est en charge chez vous du contre-terrorisme ?» Et la réponse était « Il y a le ministère de l'Intérieur, et puis il y a la DGSE, puis il y a le coordinateur du renseignement à l'Élysée, et puis il y a Matignon avec les GDSN, et ainsi de suite. » On est très très en retard de ce point de vue-là par rapport à nos principaux partenaires.
En raison de toutes ces failles du renseignement, est-ce que vous dites aujourd'hui on aurait peut-être pu éviter Nice, on aurait peut-être pu éviter Saint-Étienne-du-Rouvray, on aurait peut-être pu éviter d'autres attentats?
Alors d'abord, effectivement, vous avez raison de poser la question comme vous le faites, c'est-à-dire sur la base d'attentats précis. Nice était peut-être de tous les attentats que la France a subis ces dernières années, le plus difficile à prévenir, un individu seul, pas fiché. Saint-Étienne-du-Rouvray, alors là c'est exactement le contraire. L'un des assassins avait un bracelet électronique, assigné à résidence. Mais il était tombé dans ce que le rapport de la commission d'enquête parlementaire appelait un angle mort du renseignement, c'est-à-dire dès lors qu'il était sous la responsabilité du ministère de la Justice, les services de renseignement n'ont plus le droit de s'y intéresser.
Concernant ces fameux fichiers S, dont certains ont un bracelet électronique, comme l'auteur de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, est-ce que ces fichiers S, il faut les placer en rétention administrative, comme le réclame par exemple le candidat Nicolas Sarkozy ?
Si vous voulez avoir du renseignement, il faut que vous ayez des réseaux à suivre, à infiltrer, à connaître. Si vous mettez tous les gens que vous connaissez en prison automatiquement, ben vous ne connaîtrez plus personne, par définition. Et ça, c'est le renseignement et l'anticipation pour les nuls.
Qu'en est-il du renseignement sur Internet, de la traque sur Internet ? Alors, est-ce qu'on a les moyens ?
Là, la législation qui a été adoptée l'année dernière en matière d'interception de sécurité, d'interception électronique, est une excellente législation. Je suis tout à fait pour. Je suis personnellement quelqu'un qui considère qu'on en fait beaucoup trop en matière d'état d'urgence et qu'on est beaucoup trop porté sur les législations d'exception et ainsi de suite. Mais là où je suis plutôt militant en faveur d'une législation dure, c'est précisément sur les interceptions de sécurité. On a la loi, je crois, qui va bien maintenant, mais il faut savoir qu'avec le développement des techniques, il va falloir faire une nouvelle loi tous les 18 mois ou tous les 2 ans.
Comme vous dites dans votre livre, s'il y a bien une chose que n'est pas le combat antiterroriste, ce n'est pas une guerre parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de fin.
Et on n'est pas dans le registre d'une guerre avec son 8 mai 45 ou son 11 novembre 1918. Et on est dans une lutte où il peut y avoir des trêves, mais il n'y a jamais vraiment de fin. Je vous rappelle qu'à Paris, pendant les années 1980, il est mort autant de personnes du fait d'actes de terrorisme que dans la période de 2006 à 2015. C'est une affaire de très 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 longue haleine.
Comment perdre la guerre contre le terrorisme de François Hesbourg aux éditions Stock. 1901 Wilhelm Conrad Wirth to Jacobus H. Brand D. Hoffer Bill von Behring Sully Prudhomme Henry Dunant Frederick Percy. En ce début du mois d'octobre, c'est la saison des Nobel, du nom d'Alfred Nobel, suédois, inventeur de la dynamite, marchand d'armes et grand philanthrope. Ses prix les plus prestigieux au monde couronnent tous les domaines. En attendant le prix Nobel de littérature ce jeudi, on décernait aujourd'hui l'économie, après le prix Nobel de la paix à Oslo, et les prix scientifiques de médecine, physique et chimie, qui constituent un vrai casse-tête de vulgarisation pour les journalistes. Dans les coulisses des Nobel à Stockholm, c'est le reportage de Sébastien Orion.
Ambiance feutrée à l'Académie royale des sciences de Stockholm qui abrite chaque année l'annonce des prix de physique et de chimie. La tension est palpable dans cette salle haut de plafond où les portraits des illustres scientifiques suédois semblent contenir l'agitation. L'arrivée du secrétaire et de ses collaborateurs, puis l'annonce solennelle des lauréats, laisse place à une fièvre journalistique à la mesure de l'événement. Enfin, les journalistes se précipitent à l'assaut des membres de l'Académie pour tenter d'élucider leurs choix, mais aussi comprendre des notions qui bien souvent nous dépassent. Exemple avec la professeure de physique franco-suédoise Anne Lhuillier, qui en perd parfois son français entre deux interviews.
Le prix de physique, c'est sur la matière condensée, même la théorie de la matière condensée. J'aime bien expliquer les différents mots de la motivation. Le premier mot, c'est les phases de la matière. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est les phases de la matière ? C'est, par exemple, liquide, gaz, solide. Mais il y a aussi des phases plus compliquées, peut-être plus sophistiquées, comme je ne trouve plus les mots en français, les supraconducteurs. C'est bon, ça ? Oui. les plasmas, il y a différentes phases.
Les Nobel sont l'occasion de vulgariser la science, comme lorsque Olof Ranström, professeur de chimie et membre du comité, salue le prix décerné conjointement cette année à un Français, Jean-Pierre Sauvage, un Anglais et un Néerlandais.
C'est vraiment génial. Je suis les travaux de Jean-Pierre Sauvage depuis le début de ma carrière. C'est vraiment magnifique d'avoir un lauréat aussi évident. Et pour le travail qu'il a fourni dans sa compétence, la topologie en physique et chimie. C'est une consécration pour ses recherches. Ce qu'ont fait ces trois chercheurs est incroyable. Ils ont démontré quelque chose d'impossible, faire fonctionner des machines à un niveau moléculaire. Ce sont des inspirateurs pour nous tous. Ils ont élevé le niveau dans ce domaine. Mais surtout, ils le font de manière très ludique, voire espiègle. Ils donnent envie aux gens de travailler avec eux. Il y a bien évidemment des impératifs scientifiques fondamentaux que l'on doit résoudre, mais de cette façon, ils encouragent la créativité et la bonne humeur dans ces recherches.
L'enthousiasme du comité est palpable, car ce jour est l'apothéose d'un long et difficile processus. De plusieurs milliers de noms, les membres du comité réduisent peu à peu leur liste, comme nous l'explique Göran Hansson. Professeur en médecine et secrétaire de l'Académie depuis 10 ans, il est également celui qui annonce la bonne nouvelle aux lauréats.
Nous travaillons beaucoup plus qu'aucun autre comité dans le monde, ça vient de notre réputation. Nos décisions sont longuement étayées, c'est pourquoi nous ne prenons pas de stars de la communauté scientifique, mais plutôt des chercheurs qui ont véritablement fait de grandes découvertes. Cela prend parfois beaucoup de temps, mais c'est nécessaire puisque le but est d'honorer la bonne personne. Pour celui qui reçoit notre appel, la réaction la plus courante est souvent un trop-plein. Il est vraiment dépassé par la joie et bien sûr la surprise.
Un coup de projecteur qui ravit Gunnar von Heine. Professeur de chimie à l'université de Stockholm et membre du comité Nobel, il souligne l'importance de l'événement pour le rayonnement des sciences auprès des plus jeunes.
Tout d'abord, je pense et j'espère que le prix Nobel signifie toujours beaucoup, car une fois par an, le monde parle et discute de science. C'est fantastique d'avoir ces prix pour montrer au plus grand nombre ce que sont les sciences et ce qu'elles peuvent apporter. Après, en décembre, les lauréats des Nobel vont à la rencontre de plusieurs classes lors de la semaine des remises de prix. Le musée Nobel en ville travaille beaucoup auprès des enfants et accueille des centaines de classes chaque année pour montrer les recherches et les enthousiasmer. Ils comprennent que la science peut être drôle et que ce n'est pas réservé qu'à de vieux messieurs bardés de diplômes.
Prochaine exposition médiatique pour les lauréats, début décembre lors des semaines Nobel, remplies de discours, de visites, de rencontres, pour se terminer par le fameux banquet royal devant plus de 1500 convives.
C'est une institution en Turquie, un vrai moment de sociabilité aussi. Le petit déjeuner à la maison, tout comme au café, se déguste longuement et copieusement à Istanbul, à Nandlaouar.
Une rue de terrasse longue à n'en plus finir où des rabatteurs interpellent des passants qui devront, s'ils se laissent convaincre, patienter dans une file. Il n'est pas 18h. Ces Turcs attablés ne boivent pas un verre après leur journée de travail. Ils prennent leur petit déjeuner sur des terrasses tellement bondées que les dizaines de tables ne semblent en former qu'une seule. Nous sommes à Beşiktaş, un quartier jeune branché du centre d'Istanbul, au paradis du Kahvaltı. Le kahvaltı, le petit déjeuner en turc, c'est une institution qui reste bien vivace, y compris dans les grandes villes. Les familles en général préfèrent le prendre à la maison et prendre le temps qu'il faut, le week-end en tout cas. Les jeunes, de plus en plus, le consomment dehors dans de petits cafés qui ne proposent rien d'autre. On s'y donne rendez-vous, c'est le lieu et le moment d'une forme de sociabilité. À la maison et en terrasse, le menu varie peu, il est surtout salé et copieux. Tomates, concombres, olives, fromages, œufs sous toutes ses formes, parfois des pommes de terre frites, parfois un peu de viande, salam ou soujouk, saucisson de bœuf que l'on mange froid pour le premier, grillé et épicé pour le second. Du pain, tout de même, sur lequel on tartine toutes sortes de confitures pour la partie sucrée, souvent du miel et du kaymak, une crème de lait onctueuse. La liste n'est pas exhaustive, elle dépend des goûts de chacun, des ingrédients locaux et des talents de ceux qui le préparent. Le tout est arrosé abondamment de thé, autant de thé qu'il faut pour accompagner tous les plats et espérer les digérer. Si certains Turcs succombent à la mode du café au petit déjeuner, c'est presque un oxymore. Littéralement, le mot kahvaltı signifie « sous le café », donc « avant le café ». Café turc, évidemment, qui dans la tradition vient mettre le point d'orgue à ce festin matinal et non l'accompagner.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission Accent d'Europe. À demain.